Pourquoi ? Alors non, les médias après, l'année après, on reprend. Mais les contemporains ne font même pas. Pourquoi celui-là plutôt que celui-là ? C'est plus tard que ça se dévoile. Si vous portez un jugement sur ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, imaginez un observateur de la planète Sirius qui se mettrait à juger, et je lis ça dans tous les éditoriaux qui parlent de la politique au Moyen-Orient, que ce soit Express, le Nouvel Observateur, l'Ancien Observateur, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une différence entre le falafel israélien et le falafel jordanien ? Est-ce qu'il y a une différence entre le barbu iranien et le barbu, j'ai pas dit quoi ? Est-ce qu'il y a une différence entre... vous avez compris ce que je veux dire, hein ? Si on ne sait pas quels sont les critères, il n'y a pas de différence. Alors on juge Israël à la manière dont on jugerait le Liban, ou on juge l'Égypte à la manière dont on jugerait l'Arabie Saoudite. Alors ça n'a rien à voir. Il y a quelque part une connaissance des critères de différence au niveau du sens de l'histoire. Alors si ça passe par Israël et pas par l'Égypte à ce moment-là, Dieu seul le sait. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Alors je vous ai cité, et j'ai bien perçu cette Gemara du Zivouk Sheni du Yuz Rishon, j'ai bien perçu que ça vous a interloqué. Enfin, certains d'entre vous, je pense que c'est peut-être parce qu'effectivement vous avez vécu le problème. Je reviens au sujet. Hein ? Qu'est-ce que j'ai dit ?
C'était
Zivouk premier, pas David, mais Ouri l'avait prise. Alors il était condamné à mort. Mais c'est très bien comme question. C'est Zivouk premier. Le verset c'est Ani Nachon Atzela. Atzela Ani Nachon. Que dit David.
Alors, elle a écrit pour
David. Et Ouri l'a prise.
Ah, Ouri l'a prise.
Oui, c'est
un verre. C'est ça, elle est écrite.
J'ai
des champs, alors.
Posez-moi toujours la question de foi. Une pour le réglage, une pour le réglage. Il apparaît là, donc, que j'ai trop. Et non, c'est mes oreilles à moi. Il apparaît là que j'ai trop. Est un personnage très important. Il est l'exemple du goy le plus proche d'Israël, le beau-père de Moïse, mais qui ne peut effectuer. C'est ce passage de la religion d'Elohim à la religion de... Oh, j'ai pas fini avec Rachid. À la religion de Hachem, que si Moïse peut lui illustrer par des exemples. Or, ce n'est que parce que dans l'histoire d'Israël, il y a ces exemples, que le monde entier a été empoigné par la Bible. Et moi, j'ai jamais compris, au fond, pourquoi ces millions, ces centaines de milliards pendant 2000 ans, de Goïm ont lu la Bible et ont découvert que l'histoire d'Israël était providentielle. J'ai jamais compris comment eux le comprennent, parce que moi j'ai l'expérience des Juifs, et les Juifs n'arrivent pas à le comprendre alors que les Goïm le comprennent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je crois qu'il y a dans une espèce de réaction de protection, ça donne le vertige de savoir que c'est notre histoire. Alors on préfère fermer les oreilles, fermer les yeux. Parce que ça donne le vertige. Ceux qui se laissent prendre au piège se prennent pour Dieu. Il y a beaucoup de Juifs qui se prennent pour bon Dieu. Vous savez, j'ai dans mon expérience, dans mon bureau, des tas de gens qui viennent m'avouer ça. Donne-moi une capara à faire. Hier, j'ai rêvé que c'était moi. Et ne croyez pas que c'est seulement le Messie, le bon Dieu lui-même. Okay, ça, c'est la maladie juive. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent que l'histoire juive est providentielle. Alors, il vaut mieux qu'on s'en aperçoive pas. Je suis en train de vous expliquer pourquoi les Juifs sont incroyants. C'est une réaction de défense. Ils se protègent. Parce qu'ils étaient croyants, ils finiraient par croire qu'ils sont vendus lui-même. Toi, vous avez compris ce que je dis. J'espère que c'est clair. Hein. C'est pas une calomnie, c'est au contraire un compliment. Alors, on reprend la fin de Rachid. Même si on apprend que ce Rachid, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, vous êtes dans le premier verset du chapitre 19. J'en ai dit suffisamment et la guerre contre Amalek. Là aussi, je ne fais pas l'analyse en détail, c'est un événement qui est preuve qu'il y a une providence qui protège Israël. Amalek surgit toujours dans l'histoire d'Israël à la fin des périodes d'exil. Je vous donne un schéma très bref, on l'a appris une fois, à la sortie d'Égypte, après l'oppression égyptienne, ce peuple sort rescapé des camps de l'Égypte, qui se jette sur lui, Amalek. À la fin du deuxième exil, l'exil de Babel, c'est raconté dans le livre d'Esther, qui se jette sur les Juifs, Amalek. Mais Amalek, dommage, c'est raconté dans le livre d'Esther en clair. Et dans notre temps, à la fin de l'exil, qui se jette sur les Juifs, Amalek. Amalek qui a comme objectif non seulement de détruire ou de remplacer Israël, mais les deux, de détruire et de remplacer. Nous avons dans l'histoire de la Bible six personnages qui sont les rivaux d'Israël. Au niveau d'Abraham, il y en a deux. C'est Nimrod d'un côté qui veut détruire, l'autre qui veut remplacer. Au niveau d'Isaac, c'est Abimelech qui veut détruire. Et je schématise trop, mais je vous donne ça schématiquement. Et Ishmaël qui veut remplacer. Au niveau de Jacob, c'est Laban qui veut détruire et Esav qui veut remplacer. Mais il y a un septième personnage qui veut et détruire et remplacer, c'est Amalek. Et Amalek apparaît toujours à la fin d'un exil. Je répète, à la fin de l'exil d'Égypte, Amalek s'est jeté sur Israël. Et il aurait pu être plus fort, parce qu'Israël sortait des camps de l'Égypte. À la fin de Babel, c'est la même chose avec Aman et les Amalécites. Et à la fin de cet exil de 2000 ans, eh bien, rappelez-vous toute l'histoire de ce qui s'est passé ces 100 dernières années, la Shoah, et les rescapés de la Shoah, la Ligue arabe qui se jette dessus, c'est exactement le projet Amalek, détruire et remplacer. Aujourd'hui, c'est tout le problème de la charte palestinienne. Et regardez ce qu'on est en train de vivre, que les Palestiniens vont s'arranger pour ne pas annuler l'ancienne charte. Ils vont inventer une nouvelle charte avec plus de problèmes, parce qu'il y aura Jérusalem dans la nouvelle charte. Et ils le disent avec une naïveté, à la manière dont Hitler l'avait dit dans Mein Kampf. Vous avez lu Mein Kampf ? Vous n'avez pas lu Mein Kampf. Alors perdez pas de temps, lisez la charte palestinienne. Bon, en tout cas, vous pouvez le dire. Moi, j'ai lu Mein Kampf, j'avais 20 ans. Et je peux vous dire qu'effectivement, Hitler a été franc. Enfin, franc, il était germain, il n'était pas franc. Enfin, il a dit ce qu'il voulait faire. Et aujourd'hui, ce qui m'épouvante, et je dis pas ça avec le sourire, c'est que Arafat dit exactement ce qu'il veut faire et personne ne veut l'entendre. Vous avez remarqué ça ? Moi ? Personne ne veut l'entendre, effectivement. Et on en parlera le 20 février à la grande conférence qu'on aura avec Benoît Gross. Et... Vous êtes déjà au courant de la conférence ? Non. Alors, le 20 février, c'est un mardi.
Oui.
On aura le théorie de Milan, on fait les conférences grandes, les grandes conférences. Une conférence, Benoît Gross et moi-même, où on va parler de. Je ne sais pas comment dire, le sujet c'est le messianisme juif et l'actualité politique en Israël. Pour essayer d'éclaircir un peu tous ces désarrois. Il y a un nombre de gens qui nous ont demandé de parler, alors c'est peut-être pas encore le temps, parce que tout est en plein désarroi et en plein. Vous remarquez d'ailleurs le langage extrémiste qu'il y a dans tous les coins, et chacun a son vocabulaire, le vocabulaire est piégé. Enfin, quoi qu'il en soit, et il ne s'agira pas du tout de vous dire comment doit voter le peuple élu, mais d'essayer d'éclaircir ce problème. Je referme la porte. Or, tant dans le passage de la mer Rouge que dans la guerre contre Amalek, c'est ça que j'ai trouvé, a eu comme expérience. Ceci dit, la source du Talmud que cite Rashi, il y a une troisième réponse. Il y a Matan Torah, qu'il a entendu une révélation de la Torah. Or, d'après le récit, ça se passe avant la rencontre entre Jethro et Moïse. C'est pour ça que Rashi ne cite pas la troisième réponse de la Gemara, Matan Torah. C'est clair ? Mais la question est sur la Gemara. Pourquoi le Rav qui parle de la Gemara, je vais vous dire qui c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer dit Matan Torah ? Il sait très bien que ça se passe après. Donc là, je vous donne une parenthèse. C'est quelque chose que je vous ai déjà enseigné, mais que je voudrais reprendre, vous me direz si c'est suffisamment clair. Il y a le principe En Mukdam ou Mukhar la Torah. Il n'y a pas de chronologie dans la Torah. C'est bien connu. Hein ? Si on a une objection sur l'ordre du récit, mais pourtant, ça s'est passé avant, ça s'est passé après, dans la chronologie historique. Alors, c'est l'objection ne tient pas à un grand principe, El Moutar ou Mouchar Batora. Moudar, ce qui est avant, Mouchar, ce qui est après. Donc, l'idée, il n'y a pas de chronologie. Comment il n'y a pas de chronologie? Le récit a son ordre. En conséquence, ce n'est pas simple, c'est difficile. Alors, je veux dire, quelle est la réponse? Elle est inspirée par un enseignement du Gornevilla. Ce que je vous cite là maintenant n'est pas du Gornevilla, mais c'est, je me sers d'un enseignement sur d'autres sujets du Gornevilla. Je ne vais pas prendre trop de temps. Il y a écrit dans cette formule de la Gemara, El Moudam Umucha Batora. Mais dans le Sefer Torah, il y a Moudam Umucha. C'est bien clair. La Torah, c'est le contenu de sagesse du livre de la Torah. Et dans la sagesse, il n'y a pas avant et après. Elle est éternellement, comment dire, tout ensemble, vrai. Le contenu de la vérité mathématique, il n'y a pas cette vérité avant cet ordre. C'est l'exposé pédagogique, mathématique. Le livre, dans le livre de mathématiques, il y a premièrement ce théorème, deuxièmement secondaire. Mais la vérité mathématique, elle est d'emblée, tout à la fois, même, comment dire en italien, je ne sais pas comment dire en français, je ne connais pas l'italien. vrai, El Moukha Moukha, Ba Torah, Ba Sefer Torah, Yesh Moukha Moukha. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris. L'enseignement du Grand Levin portait sur Akol Taoum Ba Mazal, Afinou Sefer Torah Chez Vaïcha. C'est une phrase du Zohar que je me traduis. Tout dépend du déterminisme, tout est soumis au déterminisme, même le Sefer Torah qui est dans le Echa. Et la Grande Vue a expliqué ça avec un mot. Elle dit Sefer, le livre de la Torah vieillit, il est soumis aux lois du vieillissement, pas la Torah. Vous avez vu la différence, c'est clair. Bon, alors pour Rabbi Eliezer, et bien dans la Torah, il n'y a pas avant et après. Pour Rashi, dans le Sefer Torah, il y a avant et après. Et pourquoi il ne cite pas Matan Torah ne peut pas compliquer l'étude des étudiants. Bon, ça y est, c'est clair? Alors, ceci dit, je vais voir combien de temps il reste. Qu'on étudie un certain nombre de sources dans la Gemara. Concernant, précisément, la relation entre Jethro et Moïse. La première phrase, vous allez la voir. Vous êtes dans un texte? Sinon, suivez un sur deux. Il y en a encore, très bien, c'est bon. C'est pour ça qu'il est écrit aidez-vous les uns les autres. Alors, vous avez dans une page qui se trouve dans Bava Batra, à la page 14b, non, c'est ça, 14b, dans Bava Batra, vous avez ce que j'ai souligné dans cette citation. Et ça porte sur le problème du canon biblique. C'est-à-dire, quels sont les livres qui sont considérés comme étant Ketuvah Kodesh, comme étant véritablement révélés. C'est le problème du canon biblique, je ne vais pas en parler de façon générale. Et la Gemara dit, qui a mis par écrit tel ou tel livre de la Bible? C'est la question qui s'est posée. Suivez avec moi. Oui, Ktavan, qui les a mis par écrit? Moshe, Katav, Sifro. Moïse a mis par écrit son livre, ou Paracha Bilam, la Paracha de Bilam, Veio, et le livre de Job. Alors, très rapidement, on n'est pas plus que 5 minutes pour cette référence, c'est très difficile, comme formule, très lapidaire. Moïse a mis par écrit son livre. S'il s'agit du livre de la Torah, la Paracha de Bilam est dedans. Alors, que ça veut dire la Paracha de Bilam? Et que ça veut dire son livre, la Paracha de Bilam, et le livre de Job? Alors, je vais commencer. Avant d'expliquer son livre, quel est ce livre, je vais commencer par la paracha de Bilam. On apprend que Bilam est un personnage extrêmement important du récit biblique. C'est le prophète des nations, dont finalement la Gemara dit qu'il ne s'est pas levé de prophète aussi grand que Moïse en Israël, mais chez les nations, oui, et c'est Bilam. Alors, le sens, je veux dire, je dois la signification de ce que j'essaie d'expliquer à un très grand rabbin d'Israël, le Rishon Lezion du temps du Rav Kook, et qui s'appelle Rav Uziel. Je me rends, il y a 40 ans au moins, je donnais une conférence à Orsay, à Paris, Et puis il se trouvait à cette conférence, et je parlais de ces sujets, et il y avait un grand Keynes, le nom des Keynes. Congrès des rabbins sfarades, et il est venu de Jérusalem, c'était le Rishon LeZion, et puis il est venu à cette conférence, amené par les rabbins de Paris, et puis j'avais parlé de ça, et puis il a refait la conférence après moi, en hébreu, et où j'ai appris 100 fois plus que ce que j'avais dit, bien. Je m'inspire un peu de ce qu'il a expliqué. C'est que ça veut dire que Moïse était capable de la prophétie de Bilam, pas seulement de savoir ce que Bilam avait prophétisé et de le mettre par écrit sous la dictée de Dieu, mais il était capable, lui, le prophète d'Israël, de vivre l'expérience de révélation au prophète des nations. Est-ce que c'est clair ce génie? Katav parashat Bilam, ça veut dire était capable de la force de prophétie de Bilam. Il a compris ce que Bilam a enseigné à la manière de Bilam, pas seulement à la manière de Moïse. Est-ce que c'est clair? Pédagogiquement, c'est très important. Quand Moïse parle, enseigne en dehors d'Israël, il enseigne de la manière appropriée au Goïm. Il est capable de la prophétie des prophètes des nations, et pas seulement de la prophétie du prophète d'Israël pour Israël. Est-ce que c'est clair? C'est bon, je le dis là. Et alors, d'autre part, c'est Ferio. Et après, je reviendrai à Sifro chez le Moshe. Sifro a un effet extrêmement important dans la vie. C'est les questions de la sagesse avant que la révélation n'ait eu lieu. Il y a deux livres qui sont dans ce cas. Un, avant que la révélation ait eu lieu, sur la destinée humaine. Le problème de Job, c'est la souffrance du juste. L'incompréhension totale de l'homme de foi. Est-ce qu'il y a, là où il y aurait doute, c'est est-ce qu'il y a une cohérence entre le sort dans les événements naturels et le mérite spirituel et moral. Un juste qui souffre, c'est le scandale absolu. Est-ce qu'il y a hatama, correspondance, que Dieu est un, celui qui gère les événements naturels et celui qui évalue le mérite moral. Or, tout ça s'est bloqué parce qu'on voit le juste qui souffre. D'où d'ailleurs, dans le livre de Job, tous ses amis théologiens qui discutent jusqu'au bout, est-ce que tu es vraiment juste, pour enlever le scandale. Et Dieu qui se révèle et qui répond, vous avez mal parlé de Job, c'est injuste. Et il souffre quand même, mais vous n'êtes pas capable de comprendre. Est-ce que vous étiez avec moi quand j'ai créé le monde? Vous voyez, quel est le sens de la réponse? Est-ce que vous comprenez le fonctionnement de l'histoire du monde? Et d'ailleurs, Job non plus ne comprend pas, mais au moins il est rassuré parce que Dieu s'occupe de lui. C'est-à-dire, ce qui le rassure, c'est parce que Dieu lui a dit, il ne comprend rien non plus. Vous avez lu le livre de Job, lisez le livre de Job, et méfiez-vous du Satan, parce qu'il se cherche un Job. Pour revenir au sujet. Job ne comprend pas le discours de Dieu, à la fin, le lecteur ne comprend pas. C'est la description, parce que vous étiez avec moi quand j'ai créé le monde. Ça veut dire, encore une fois, est-ce que vous comprenez la manière dont je gère le monde que j'ai créé? Vous ne comprenez pas, mais ne dites pas que Job n'était pas juste. C'est le juste souffrant. Avant la révélation de la Torah, la question est une question de sagesse universelle, parce qu'on n'a pas encore la table des valeurs absolues. Qu'est-ce qui fait que dans l'absolu, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal? Et donc, s'il n'y a pas correspondance entre le sort dans les événements de la nature et le mérite moral, là c'est un problème de philosophie. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans cette non-correspondance. Les tuiles tombent des toits et ça tombe sur la tête d'un juste. Bon, est-ce qu'il est vraiment juste? Ça, c'est la thèse des théologiens. Mais une fois la révélation de la Torah, le problème devient tragique. Alors, le problème devient scandale. Et alors, qui est capable de poser ce problème? Moïse. Qui est capable de donner la Torah? Là, seul Moïse est capable de la sagesse de Job par rapport à la Torah. Et c'est ce que le Gemara dit dans Maseret Brachot, que avant de recevoir la Torah, Moïse avait trois questions à poser à Dieu. Une d'entre elles, c'était pourquoi y a-t-il des justes qui ont du bien et des justes qui ont du mal, et pourquoi y a-t-il des méchants qui ont du mal et des méchants qui ont du bien. C'est-à-dire, c'est la question avant d'accepter la Torah. Jusque-là, on comprend qu'il peut peut-être y avoir des raisons pour lesquelles un juste souffre et un méchant est heureux, Mais maintenant que la Torah est révélée, je veux que des justes heureux et que des méchants malheureux. Vous avez compris le problème. Donc, la question du livre de Job, eh bien, fait partie de la sagesse de Moïse. C'est parce que Moïse est capable de comprendre la question de Job qu'il peut recevoir la Torah. Ça va jusque-là ? Ça veut dire que Moïse est capable de la sagesse de Job. Donc on va voir à caractériser déjà qu'est-ce que c'est la sagesse de Bilam dont Moïse est capable, qu'est-ce que c'est la sagesse de Job dont Moïse est capable. Eh bien, il nous reste le livre de Moïse. S'il faut, vous laissez les deux autres en suspens, et quand on a compris qu'est-ce que veut dire la Gemara en disant le livre de Moïse, on va reprendre le sujet. Alors là, c'est la deuxième citation. Il y a un enseignement dans la Gemara, et vous l'avez, prenez l'objet souligné, hein, dans le deuxième ensemble, le premier col qui doit faire. L'objet souligné à partir de la deuxième ligne. C'est la Torah, un livre de la Torah, chez une boule et la quête, où on ne peut pas glaner, 85 lettres, tirons le parachat de Vaïbin Sohar, comme par exemple cette parachat dont je vous parlerai tout à l'heure, et lorsque Moïse accompagne dans les pérégrinations dans le désert les différentes étapes de l'arche qui avance pour montrer le chemin et qui s'arrête pour montrer les Alpes. C'est les versets qu'on dit au moment de la sortie de la Torah, Vaïbin Sohar Aaron, Vaïbin Moshe, Umnochoyomar. Je reviens dans l'île de Vélibar. Je vous donnerai la référence chapitre 10. Est-ce que je vous ai donné la référence pour les préparer? Non, j'ai oublié. Alors, tout à l'heure, hein, pas maintenant, ne perdez pas le temps. Alors, cette paracha de Vaïbin Sohar a 85 lettres. Il nous redrive en Talmud. Un Sefer Torah qui a vieilli, qui s'est flétri. Les lettres se sont effacées. S'il reste encore 85 lettres dans le Sefer Torah, on lui doit l'honneur d'un Sefer Torah entier. Et on apprend de ce qu'il y a 85 lettres dans cette paracha de la liturgie de Moïse au moment des étapes de l'arche dans le désert. Et on apprend par là que la Gemara considère que cette paracha de Vaïbin Sohar est un Sefer Torah tout entier. C'est clair ? On va voir la référence. Prenez à partir de là. Qui va ici ? Sefer Torah chez Balin, un Sefer Torah qui s'est flétri, Imejbole laquelle je m'en ai le Chamech Otiro, si on peut y glaner 85 lettres, qu'est-ce qu'on paracha de Vaïbin Sohar, comme par exemple la paracha de Vaïbin Sohar, à Aaron, Matsini, on le sauve, si un incendie le Shabbat, si à 85 lettres, si un Sefer Torah entier, il faut violer le Shabbat pour le sauver. Si à 85 lettres, c'est un livre qui a été une fois un Sefer Torah, qui n'est qu'un Sefer Torah, et on laisse mourir, on n'a pas le droit de sortir de Reshuta Yafi, de Reshuta Rabbi. Beimlav et Matsili. Alors, prenez la suite. Vaï, Tanouamanan, on enseigne la ligne d'après. Vaï, Binsoa, Arono, Yomer, Moshe, Parachazou, Asala, Akadzo, Khoussi, Maniot, cette paracha, Dieu lui a fait des signes. Et effectivement, on va voir tout de suite dans Sefer Torah, il y a un nom à l'envers avant, et un nom à l'envers après. C'est pour montrer, d'après un premier enseignement, que son véritable endroit était 50 parachutes avant. Même c'est 50. Ça veut dire qu'il faut la comprendre après le contexte qu'il y a 50 parachutes avant. C'est Maniot Milemar Alma. Talomar, prenez en bas, chez Enzeme Koma, que ce n'est pas son endroit. Rabbi Yomer, l'homme inachemazé, ce n'est pas cette raison-là, mais Ella Mipene. J'ai Sefer Hashu Vu Bishneratsu. C'est un livre important en lui-même. Keman, selon l'enseignement de qui? Keman Asla, on suit quel enseignement? D'Amar Rav Shmuel Ben Nahmani, Amar Rabbi Yonatan. Un enseignement qui vient de Rabbi Yonatan sur le verset dans les proverbes, Hatseva Amudea Shiva. On parle de la sagesse, elle a sept piliers. Donc ça veut dire, Elu Shiva Sifre Torah. Quand il était pour cette opinion, il y a sept livres. Et je vous les explique. Prenez le livre de Bemidbar, chapitre 10, si je me souviens bien. Oui, au chapitre 10, à partir du verset 35. Stéphane. Oui. 34, 35. les sept livres de la Torah dans cette opinion, c'est Bereshit, Shemot, Vaikra, le début de Bamidbar jusque-là, Vayi Bintzorah, 85 lettres, ça fait 5, la fin de Bamidbar, ça fait 6, et Dvarim, ça fait 7. Donc, nous avons une source dans la Torah où on va comprendre que ça veut dire le livre de Moïse. Parce que jusque-là, on est habitué à deux expressions. Sefer Torah, le livre de la Torah, ou Torah de Moshe, la Torah de Moïse. Mais si proche de Moshe, le livre de Moïse, on n'a pas cette expression-là. C'est clair? Or, on apprend qu'il y a deux versets qui ensemble forment 85 lettres et que Moïse a dit de sa propre initiative, pas sur l'ordre de Dieu, pour remplacer Jétro. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le contexte qu'il y a avant. À partir du verset 10, à partir du verset 29. On va lire ensemble. Alors, le chapitre 10 dans Bamidbar, Yud, Pasuk Kaftet, Vayomer Moshe, et Moïse dit, les Chova ben Reuel Amidiani. Achova, fils de Reuel le Midiani, et il s'agit de Jétro, Chotel Moshe, le beau-père de Moïse, Nosri Manachmo et Lamakon, nous allons aller vers l'endroit Asher Amar Hashem, que Dieu a dit, Oto et Tenachem, je vous donnerai, c'est le pays de Canaan, Lecha et Tanou, viens avec nous, Vetanunach, et on te fera du bien, qui Hashem liberto à l'Israël, car Dieu a parlé du bien qu'il ferait à Israël. C'est-à-dire, viens avec nous, et on partagera le bien que Dieu donnera à Israël avec toi, Jétro. Continuez. Et c'est, je continue, et c'est bien après que Jétro, on est dans le quatrième livre de la Torah, devient le beau-père de Moïse, mais surtout le disciple de Moïse, et qui s'est converti à Torah Tachem. Moïse est là, mais Jétro lui dit à Moïse, l'Oeler, je n'irai pas, qui dit, mais l'Arti, mais le Monati Eler, mais j'irai à mon pays et à ma patrie. Et Rachid expliquera, le commentaire explique, je veux m'occuper de mon peuple. Et effectivement, Jétro a quitté Israël pour aller s'occuper de son peuple. Nous avons une tradition, c'est la religion des Druzes, qui reconnaît Jétro comme prophète. Et vraiment, les Druzes ont une place assez spéciale dans les relations avec Israël, dans le monde musulman. Enfin, je reviens d'abord au récit. Et donc, ici, il y a à caractériser qui est Jétro dans sa relation à Moïse. Vous voyez dans le contexte, surtout verset 31. Vayomer, Moïse dit à Jétro, Anna tazo otanu, ne nous abandonne pas. Car tu sais nous guider dans le désert. Veïta la nous la enaïm, tu seras comme les yeux des éclaireurs. Ça veut dire que Jétro, c'est une sagesse dont Israël a besoin, savoir comment traverser le désert. Et alors, voilà, Jétro s'en va, et Moïse prend l'initiative de remplacer Jétro comme guide, et on lit à partir du verset 34, Vaïli Binso à Aaron, et il arriva lorsque l'arche se déplacer, Vayomer Moshe, Moïse disait, Kouma Hashem, lève-toi à Dieu, Viafuso Ivecha, tes ennemis, que tes ennemis se dispersent, Vianuso Mesanecha Mipanecha, et que tes haïsseurs, on dit tes ennemis, s'enfuient de devant toi. Verset 36, ou Noroyomar, et lorsque l'arche se reposait, il disait, Chouba Hashem, reviens Hashem, Rimevo Papé Israël, sur les myriades des milliers d'Israël. Ça veut dire que Moïse a une force, à lui Moïse, capable de remplacer Jétro dans la marche au désert. Alors on a trois personnages. Jétro, et ça c'est le livre de Moïse, Ken, Job et Bilam. Alors très rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais vous me direz si ce n'est pas clair, il y a trois personnages dans le monde extérieur à Israël qui sont capables de sagesse. La sagesse de Jétro, c'est d'être le guide d'Israël dans la marche au désert. Alors, vous verrez dans notre paracha, qu'est-ce que Jétro, ça vous l'avez dans Kémitzion, qu'est-ce que Jétro ajoute à la Torah, l'organisation sociale. C'est clair, hein? La hiérarchie qu'il faut installer pour qu'Israël soit une société qui puisse fonctionner normalement. Et l'étonnement, c'est pourquoi Moïse a besoin de l'aide d'un socialiste qui expliquerait comment la société va fonctionner. Mais le profil de cette sagesse de Jétro, c'est la sagesse du problème social. Le tzaddik qu'il y a derrière, ce serait le socialiste s'il était tzaddik. Job c'est le problème existentiel de la destinée humaine, le juste qui souffre. Et l'âme, c'est le religieux. C'est celui qui reçoit la révélation de Dieu, mais hors de la morale. Religieux seul, la société seule, l'existence seule. Mais derrière les formes de sagesse qu'il y a, si vous voulez, je les situe au niveau de la sagesse grecque. Le stoïcien, ça c'est qui le stoïcien? C'est Job, très bien. Vous avez ce qui va être l'ancêtre du jésuite, ça c'est Milan. Et puis vous avez le troisième profil, qui est celui qui est l'organisation de la société. Vous avez les élèves de Socrate, hein. Mais je pensais à Aristote, mais Socrate, effectivement. Mais effectivement, vous avez ces trois types de sagesse. Le secret de cette Gemara, c'est que chacune d'entre elles est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Il n'y a que celui qui possède les trois qui peut recevoir la Torah. Est-ce que c'est clair? Voilà, la force de Moïse se relie à Jéthro, Bilam et Job à la fois. Jéthro seul a un pan de la sagesse. Job seul a un autre pan de la sagesse. Et Bilam seul a un autre pan de la sagesse. Mais isolés, ils sont impuissants. Moïse est capable des trois capacités, alors c'est lui qui a reçu la Torah, ça se relie au patriarche. Pourquoi il y a trois patriarches? Abraham, c'est dans les rapports entre l'homme et autrui, le problème de la société. Isaac, c'est dans le rapport entre l'homme et Dieu, le problème religieux. Et Jacob, c'est le problème de rapport entre l'homme et la dignité de l'homme en soi, et l'homme et Atzmo, c'est le problème de Job, c'est-à-dire la connaissance des secrets de la destinée humaine. Bon, j'ai parlé trop rapidement, j'en ai bien conscience, parce que c'était un sujet important, mais j'espère que ça a été suffisamment clair. Ce que je voulais ajouter, c'est ce que la manière dont le Rav Ziel parlait de ça, et au niveau du Drash, c'est que Moshe Tatav Sifro, c'est qu'il a été capable de raconter sa propre histoire. Sifro chez Moshe, c'est la Torah, le livre de la Torah, donc c'est l'histoire de Moïse. Et il est capable de l'histoire, de vivre l'histoire de Job, et il est capable de vivre l'histoire de Bilal. Et vous voyez comment on pourrait refaire tout l'exposé à ce deuxième niveau. Il a suffi de vous citer comment le Rav avait formulé cela. Bien, voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Il nous reste une demi-minute. Si vous avez une demi-question.
Ok. Je te demande, il y a un bel le serment de Dieu à Abraham. Sa postérité, sa descendance.
N'est-ce pas?
Alors.
Attendez.
Voilà la question, revenir
tout de suite.
Si Dieu avait le choix entre Israël ou l'Égypte, est-ce que les Égyptiens sont considérés comme
des descendants d'Abraham? Alors écoutez, il y a un problème a priori postérieur. L'Égypte, c'est la civilisation universelle. Et à chaque étape de l'histoire de l'humanité, il y a une civilisation dominante. Et si Israël échoue, c'est la civilisation dominante par qui ça passe. Ça veut dire que, a priori, on ne sait pas si la descendance d'Abraham va réussir. Vous savez, il faut étudier tous ces versets-là. Par exemple, pourquoi cette descendance serait condamnée à l'exil, a priori, de son histoire? Est-ce qu'il y aurait une fatalité de cet exil? En réalité, il faut étudier, on va poser la question une autre fois, qu'on aura plus de temps. Bon, j'en parle un peu maintenant, si vous avez deux minutes. C'est surtout dans le Maharal qu'on a la réponse. Ça veut dire que, à partir du moment où Abraham est ce qu'il est, si sa descendance démérite, alors elle sera exilée. Mais ce n'est pas forcé qu'elle démérite, et ce n'est pas forcé qu'il y ait une fatalité de l'exil. Je veux dire comment le Maharal l'explique. Le verset dit ceci. Ce que je voulais dire quand même, je voulais être complet, il faut vérifier. Dieu ne s'adresse plus à Abraham après le sacrifice d'Isaac. C'est à Isaac qu'il s'adresse. Okay. Hein? Ah, oui. Oui, mais c'est pas Dieu lui-même. On revient. Voilà le verset. Yado Artidar, qui guérit à la rave de Tolaem, va avoir du même au Tamar Vamancha, le gamin Tagoy a cherché à Rodou Damanochi, la Halechen et Tseou, le Khujgado. Tout attrape, Dieu dit à Abraham, quand Abraham demande un signe pour savoir s'il méritera le pays, voilà le signe que Dieu lui donne. Eh bien, tu sauras que ta descendance sera exilée dans un pays qui n'est pas le leur. Ça durera 400 ans, et je jugerai le peuple qui les aura opprimés, et après ils sortiront avec un grand butin. Une fatalité, a priori, mais c'est originel. Il y a beaucoup de commentateurs qui sont tentés d'expliquer ça comme ça. Puisqu'Abraham a douté en demandant un signe, alors il va être puni par l'exil de sa descendance. Ça, le Maharal repousse ça avec véhémence. Je formule à ma manière, ça c'est l'explication au péché originel. C'est-à-dire parce qu'Adam a mangé une pomme, l'humanité entière est dans l'enfer. Dans la tête de qui ça peut rentrer? D'autant plus que le Talmud, avec son humour habituel, il discute que ce n'est pas une pomme. En tout cas, pour revenir au sujet, mais c'est inouï. On ne se rend pas compte de quoi on parle. Le premier homme a mangé une pomme, et alors toute cette savate qu'il y a dans l'humanité depuis 6000 ans, mais il faut être complètement, je ne sais pas comment dire, siphonné pour croire que c'est ça que la Bible a dit. C'est pas ça. Le Maharal repousse ce genre d'explication. D'un coup, je vais vous dire, en passant l'humour juif, à Rosh Hashanah, qui est l'anniversaire, on prend une pomme qu'on trempe dans le miel. Vous savez combien il y a Ratzon, que nos ennemis, là c'est que nos ennemis soient paumés. Et nous faire bon poids et qu'ils soient emmiélés. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, le Maharal dit ceci. Chez Abraham, ce doute, c'est pas un manque de foi, c'est un scrupule de la vertu. Et d'ailleurs, il cite le Talmud en montrant qu'Abraham avait des vertus exagérées. Et c'est très dangereux d'avoir des vertus exagérées. Il priait pour les gangsters de Sodome et Gomorrhe. C'est une vertu, mais elle est exagérée. Et si jamais Dieu avait exaucé la prière d'Abraham, nous serions infestés de sodomites, de gomorrhisants. Vous savez, quand on est corrompu d'une vertu en particulier, que cette vertu est hypertrophiée, ça devient un défaut. La vertu exagérée, c'est grave. Je vais dire ça très rapidement dans mon dialogue avec les chrétiens. La charité seule, sans la justice, ça couvre tout le crime. Parce que c'est le rôle de la charité de protéger le criminel. S'il n'y avait que la charité, le monde éclate. Il faut aussi la justice. S'il n'y avait que la justice, le monde éclate. Parce que la première faute, il est perdu. Il faut aussi la charité. Donc, ceux qui sont les vus d'une seule vertu, eh bien, c'est pas du tout un défaut d'être très charitable. Mais c'est pas encore la vérité morale. Abraham n'est pas encore Israël. Il faut attendre Jacob, après Isaac, pour que ce soit Israël. C'est a posteriori de Jacob que Isaac la justice et qu'Abraham la charité sont d'Israël. Mais il faut l'unité des valeurs Jacob pour que Abraham et Isaac soient d'Israël. Alors, en Abraham, c'est une vertu. Vertu exagérée, mais vertu quand même. Mais si la descendance d'Israël doute de ce doute, alors c'est une faute. Et le frère du Maharal, dans un livre qui s'appelle Sefer HaChaim, le frère du Maharal est aussi un grand haram, on le connaît moins parce que son frère l'a caché dans sa gloire, si j'ose dire, il s'appelait Chaim. Dans le Sefer HaChaim explique une des raisons de l'exil. C'est-à-dire lorsque la descendance d'Abraham se demandera si elle a assez de mérite pour mériter le pays, elle ira en exil et ne reviendront que ceux qui sont sûrs qu'ils ne sont pas chez eux ailleurs. C'est-à-dire, dans la descendance d'Abraham, c'est une faute de douter, est-ce que c'est ma terre? Mais Abraham, c'est un scrupule de vertu. Vous avez compris la différence? Et je pourrais aller jusqu'à dire cela. Je suis persuadé que cette déviance de Shalom Arshav, qui a ce doute, peut-être ça appartient aux Arabes, à Ishmaël, eh bien c'est Abraham qui travaille. Heureusement qu'on a Sarah. Sarah qui sait qu'il faut séparer Ishmaël de Isaac. Transfert. Lisez la Bible. Hein? Et d'ailleurs, tous les grands kabbalistes ont dit que les prophètes femmes étaient plus prophètes que les hommes. Et on apprend de qui? De Sarah, qui est plus grande prophétesse qu'Abraham. Je vous cite la Gemara. Hein? Abraham est prêt à donner Jérusalem à Ishmaël. Pourquoi pas en partage? C'est Sarah qui va dire jamais de la vie. Mais ce qui est important, c'est que Dieu intervient et dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. Vous savez, la Gemara, avec son humour talmudique, qui dit, quand une femme est plus petite que toi, si ta femme est plus petite que toi, baisse-toi pour lui parler. C'est très profond, ça. Et d'où on apprend? De Sarah. Smart de cola. Bien, alors, donc voilà, je crois que c'est suffisamment clair. On se revoit, si Dieu veut, la semaine prochaine. Et je vous dois un pouce tous. Parce que la première fois depuis un an, je parlais presque de ça.